si gira. Silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check. Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque.
Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juin 2023, c'est la traductrice, écrivaine et critique de cinéma Hélène Frappard qui se prêtait à cet exercice en programmant « Riche et célèbre » de Georges Cukor. Rencontre avec Hélène Frappard, animée par Bernard Benoliel.
Bonsoir et bienvenue à la Cinémathèque, bienvenue à Hélène Frappard, que je remercie encore une fois pour cette carte blanche, ce programme, sa présence, sa parole. Le principe, je vais vite, vous le connaissez, je lui ai proposé de choisir 4 films. Alors 4 films qui étaient... En fait, cette carte blanche est partie du dernier livre en date d'Hélène Frappard, « Trois femmes disparaissent », paru chez Actes Sud. Hélène Frappard est traductrice, elle est essayiste et aussi, et surtout, romancière. Et donc, ce drôle de roman qui s'appelle « Trois femmes disparaissent » et qui a beaucoup à voir avec le cinéma ou qui est dans ou avec le cinéma, nous a donné l'envie de lui proposer cette carte blanche. Donc, les deux premiers choix qu'elle a fait étaient directement liés à cet essai. Donc c'était Roar, le film avec Tippi Hedren, puis ensuite on a vu la semaine dernière Night Moves, la fugue d'Arthur Penn avec Melanie Griffith, et puis là on fait un pas de côté et on va voir ensemble ou revoir le film de Georges Cukor qui s'appelle Riche et célèbre. En fait c'est le dernier film de Georges Cukor, au moment où il le réalise, Georges Cukor a 80 ans passés, c'est un film qui date de 1981. Il a 80 ans passés, il a 50 ans de carrière, il a fait 50 films. C'est facile à retenir, mais c'est pour vous dire, voilà, c'est un sémillant du troisième âge, comme on ne disait pas à l'époque. Et il tourne avec Candice Bergen et Jacqueline Bisset. Donc voilà, c'est le troisième choix d'Hélène. Je vais tout de suite lui passer la parole pour qu'elle vous en dise un peu plus, ou en tout cas qu'on fasse une introduction qui vous donne envie de rester, puisque le principe, c'est qu'on voit le film ensemble et on en discute ensuite ensemble. Juste avant de lui passer la parole, je vous donne une précision d'ordre technique. La projection à laquelle vous allez assister est une projection en pellicule. C'est une 35 mm, une copie 35 mm. Ça a été une tannée que de trouver ce film, je le dis, parce que je sais qu'Hélène y tenait. Donc avec Rodolphe Luciana qui travaille avec moi à l'organisation de ces séances, à partir du choix des invités, on cherche des copies, on cherche des supports de projection dignes de ce nom. Et pour trouver ce film, c'était quasiment impossible, alors que c'est le dernier film de Georges Cukor. La Warner, qui détient le catalogue MGM, ne l'a pas restauré à l'heure actuelle. Il n'y avait aucune copie dans aucune archive, ni aucune cinémathèque, en Europe en tout cas. Donc finalement, on est revenu à notre case départ et on a pris la copie 35 mm de la Cinémathèque française, qui est dans nos collections. Celle-ci a un avantage, c'est que les couleurs sont en place, c'est une belle copie. Sauf que, je ne sais pas quand, il y a des années, on a prêté visiblement cette copie, ça ne peut pas arriver ici en cabine, et cette copie a été rayée. Si bien que c'était aussi pour ça qu'on cherchait autant une copie ailleurs que chez nous, alors qu'on savait qu'on en avait une, c'est parce que, je vous préviens, cette copie a une rayure verte, parfois deux, sur le côté de l'image, tout du long du film. On a réfléchi, on s'est demandé, mais on s'est dit, bon, on est à la Cinémathèque, on veut voir le film, il n'y a pas d'autre moyen pour le voir, donc on va projeter ce film et je voulais simplement vous avertir de cela. Et il me semble que autant c'est un problème quand on regarde la pellicule, autant quand on regarde le film qui est sur cette pellicule, on est pris dans un mouvement qui est celui du film et après notre cerveau compense et on fait avec la rayure. Voilà, je voulais vous informer de cela, hein, si, vous allez voir, et je voulais vous informer de cela et je donne la parole à Hélène.
Alors moi, je n'ai pas de cerveau, donc le problème est réglé. D'ailleurs, je vous conseille de surtout pas en avoir quand vous regardez un film ou quand vous lisez un livre. Alors moi, ce film, je vis avec depuis longtemps. Je l'ai découvert dans une rétrospective qui est une des plus belles expériences de ma vie qui s'appelait, je ne sais plus comment, mais c'était sur le dernier film. En fait, cette idée géniale qu'avait eue la Cinémathèque, c'était l'époque où je faisais une émission de cinéma sur France Culture qui s'appelait Rien à voir. J'avais fait une émission là-dessus. Et donc
c'est les films testamentaires, voilà. Les grands
c'était
films, les derniers films,
le dernier film, voilà. Donc, et il y avait notamment Rich and Famous. Je crois que c'était la première fois que je le voyais. Ça devait être il y a une quinzaine d'années. Je m'en suis jamais remise. Par ailleurs, je vis avec George Cukor. George Cukor, c'est mon morceau de sucre. Cukor en hongrois, ça veut dire sucre. C'est mon éditrice qui est hongroise comme lui qui m'a appris ça. Depuis toujours. Et ce qui est assez passionnant par rapport au troisième chapitre du programme là, que j'ai concocté avec Bernard, c'est que donc mon dernier livre, Trois femmes disparaissent, a pour personnage des actrices. Trois personnages principaux, trois actrices, Tippi Hedren, sa fille Melanie Griffith, sa fille Dakota Johnson, et puis une myriade d'actrices autour d'elle, parmi lesquelles Marilyn Monroe, et plus précisément son dernier rôle et son dernier film, Something Got to Give, qu'elle tourne donc en 62, l'été de son suicide. Donc film réalisé par George Cukor, qui lui offre un de ses plus beaux rôles. Vous pouvez voir les rushs de ce film qui ont été montés par la télévision américaine, c'est absolument sublime. Et une scène de ce film est la première phrase de mon livre. « Can I cry for you ?» demande Marilyn Monroe, qui joue une mère qui a pris la fuite pendant 3 ans, qui a disparu sur une île suite au naufrage de son bateau et qui revient. Son fils ne la reconnaît pas et elle lui raconte que sur cette île, les hommes qui n'osent pas pleurer, en fait, quelqu'un d'autre pleure pour eux. Cukor, donc voilà, je veux juste dire une autre chose qui est assez fascinant pour moi. Donc, j'ai projeté ce film au début, enfin, j'ai programmé ce film dans l'idée que les deux personnages principaux du film sont deux écrivaines. Donc là, ce ne sont pas des actrices, ce sont des écrivaines. C'est l'un des plus beaux films jamais réalisés, vraiment sur ce que font les écrivains, pour de vrai. Et j'y ai repensé beaucoup quand, il y a quelques années, est sorti le très grand film de Steven Soderbergh, The Crossing, avec Meryl Streep dans le premier rôle, Candice Bergen dans le deuxième rôle. À ma stupéfaction, personne n'avait remarqué, sauf moi, qui du coup ai fait un très long article dans les cahiers du cinéma là-dessus, que Candice Bergen reprenait le rôle, en fait, son rôle prolongeait son rôle de Rich and Famous, et que Soderbergh faisait donc son propre hommage testamentaire, d'une manière vraiment, enfin, le film est merveilleux et très émouvant, du coup, au dernier film de Cukor. Par ailleurs, et j'arrête là-dessus, ce qui est très fort dans toute cette histoire, c'est que l'écrivaine, entre autres choses, c'est l'écrivaine, c'est la femme invisible, hein, n'est-ce pas, Yakuta Ali Kavazovitch, grande écrivaine ici présente, mais étant la femme invisible, étant la femme qui n'est jamais à poil, hein, étant la femme qui n'est jamais nue, étant la femme qui n'est jamais vue, mais qui est celle qui regarde, c'est l'anti-actrice. Donc ça m'intéressait beaucoup de voir comment filmer, comment faire d'un personnage de fiction, un personnage de fiction, un personnage de cinéma, donc un personnage excitant, un personnage bandant, c'est le principe du cinéma. Comment en faire de ça, fabriquer ça à partir de cette femme-là, de cette femme au col roulé, comme Diane Keaton le dit dans un de ses rôles d'écrivaine, mais je pense qu'on en reparlera, et en même temps que ça fasse un diptyque entre Marilyn et ce film-là, il y a quelque chose de très fort qui se joue, sachant que évidemment il s'agit, vous allez le voir, vous comprendrez tout de suite, d'un des plus beaux autoportraits de l'histoire du cinéma. Merci.
Voilà, bonne projection et à tout à l'heure pour la discussion. Bien, voilà. Rich and Famous. Merci. Merci Hélène d'avoir programmé ce film parce que c'était un bonheur qui a duré 2 heures. C'est vraiment un film que j'ai trouvé magnifique. Souvent, alors on disait à George Cukor, on lui a dit absolument toute sa vie et avec certaines raisons, on lui a dit toute sa vie et ça l'énervait à la fin de sa vie. qu'il était un directeur un cinéaste d'actrice, et on disait woman's director. Et il s'énervait en rappelant qu'il avait aussi dirigé Spencer Tracy, Cary Grant, et que c'était pas des gonzesses. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on voit ce film-là, par exemple Rich and Famous, on est stupéfait quand même à la fois du jeu des deux actrices et de la manière dont il les filme, les accompagne, les encourage, les relance, enfin comment littéralement il fait corps avec elles. Et peut-être on peut commencer par évoquer les deux actrices, parce qu'elles sont à la fois, je dirais, le tout du film. Le film tourne sans cesse autour d'elles, et elles-mêmes ont un trajet évident pendant tout le film, parce qu'on peut se dire, mais de quoi parle exactement ce film? Et peut-être ce dont ça parle s'est révélé à la toute fin. Mais voilà, est-ce que peut-être parler de Jacqueline Bisset et de Candice Bergen, qui effectivement forment un couple.
Oui, alors le film, ce que je disais, c'est vraiment un autoportrait, hein, explicite. D'ailleurs, ce truc qui revient deux fois, des homosexuels et des juifs, c'est lui, évidemment, qui était les deux, Q-Core, hein, mais on voit, et qui a dû le cacher pendant... Enfin, le cacher, c'était connu à Hollywood, mais ça ne devait pas sortir de...
Enfin, pas qu'il cacher son homosexualité.
Oui, en juif, c'était un peu plus compliqué de le cacher à Hollywood. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, oui, il a dû le cacher, effectivement. Et alors, il n'a pas subi le sort, tu citais Cary Grant, mais que beaucoup d'acteurs homosexuels, hommes ou femmes, ont subi, où on leur demandait, les studios leur demandaient de choisir entre leur carrière et leur vie amoureuse. Certains ont choisi d'ailleurs leur vie amoureuse et ont mis fin à leur carrière. Donc il y avait ce choix dont on a parlé. Il me semble qu'on en a parlé à propos des chaussons rouges dans une des séances. Je sais plus. Je crois non. Non, je confonds tout. Non, parce que mon livre partait aussi. Mon dernier livre, Trois femmes disparaissent. Entre autres d'un film qui s'appelle Searching for Debra Winger, et qui lui-même part du film Les chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger, où il est question justement dans ce film d'une femme, une danseuse étoile, à qui son mari, qui dirige la compagnie de danse, demande de choisir entre sa carrière et la danse, lui-même évidemment n'ayant jamais, enfin ça ne lui traverse pas l'esprit de devoir affronter ce choix, et la danseuse étoile se suicide à la fin des chaussons rouges.
Elle doit choisir entre la danse et
le mariage.
Et le mariage.
Voilà. Donc c'est des questions finalement qui sont pas si éloignées. Enfin, je veux dire celles qui se posent aux femmes et celles qui se posent aux homosexuels. Enfin. Pas seulement d'ailleurs à l'époque, enfin particulièrement disons à l'époque de Q-Core, qui n'a révélé publiquement son homosexualité que très peu d'années avant sa mort. Donc là, le film date de 81, il est mort en 83. Donc c'est un autoportrait à travers Jacqueline Bisset, très explicitement, en laquelle il se projette. Et pour tu m'as envoyé, donc enfin on a vu tous les deux le c'est un remake, ce film. Alors moi je l'ignorais complètement quand j'ai vu pour la première fois, enfin les
en fait, c'est il y a eu deux adaptations de la même pièce, c'est-à-dire qu'en 1940 cette pièce donc qui est de John peu importe, enfin, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, c'est une pièce de Broadway.
Oui.
C'est une pièce de Broadway qui, en 1943, a été adaptée déjà par Hollywood, par Vincent Sherman, et dans les deux rôles, de la brune et de l'autre, c'est Betty Davis qui joue l'écrivaine et Miriam Hopkins qui joue le rôle de Candice Bergen.
Voilà.
Donc, c'est un film de 43.
C'est un film de 43 que j'ai vu, donc, du coup, pour préparer cette séance. Et c'est vrai que c'est assez sidérant, le scénario est à peu près le même, enfin pas du tout les dialogues, mais disons la structure du scénario, donc de la pièce de théâtre, est la même. Donc l'amitié en forme de rivalité entre deux femmes, une disons vraie écrivaine, donc Betty Davis dans le premier film, et puis une qui est malade d'envie en fait et qui veut prendre la place de l'autre. Alors c'est disons très explicitement le schéma de la pièce, il est beaucoup plus complexe dans le film de Q-Core, mais ce qui m'a frappé, c'est que le film de Vincent Sherman est c'est un très mauvais film, en dépit de l'interprétation de Betty Davis. Miriam Hopkins, la pauvre, son rôle n'est pas bon, donc elle peut pas faire grand chose de son personnage. Cependant, c'est un film d'une totale misogynie qui est le premier, donc qui est complètement... Alors, moi, il m'intéresse parce qu'il se trouve que je suis en train d'écrire un livre, enfin un essai philosophique, à partir d'un concept que j'invente, en fait, mais que QCOR a introduit. Et j'étais assez bouleversée, d'ailleurs, de revoir ce film et de comprendre à quel point QCOR est quelqu'un vraiment qui compte énormément pour moi. C'est le concept de gaslighting qui est introduit par QCOR en 44, donc un an après le film, là, le premier, dans son film Gaslight, Antise en français, avec Ingrid Bergman et Charles Boyer. Donc déjà, à la même époque exactement que le premier film avant... Rich and Famous, donc dans ce premier film, c'est une période en fait historique où l'Amérique prépare ce qui va donner ensuite lieu au livre magnifique, au chef-d'œuvre de Betty Friedan, La femme mystifiée, c'est-à-dire prépare vraiment le retour des femmes. Les femmes ont été dans la société états-unienne, elles ont pris un peu de liberté dans les années 30, pendant la guerre, elles ont été, non, je veux dire, les circonstances ont fait qu'elles ont aussi pris leur indépendance, mais dès la fin de la guerre se prépare vraiment comme un schéma, il y a vraiment toute une organisation politique derrière ça qui consiste à faire revenir les femmes à la maison, donc en les dissuadant très tôt de faire des études supérieures, en les renvoyant à l'université, etc., et surtout en rendant impossible, donc l'idée c'est de les renvoyer dans une vie domestique avec des enfants et sans travailler, donc femme au foyer, ménagère, la mystique de la ménagère, appelle ça Betty Friedan. Et donc le premier Rich and Famous, c'est vraiment le sujet, c'est-à-dire que le personnage de Candice Bergen dans ce film est vraiment censé être une sorte de sorcière, enfin une sorcière absolue, puisque à un moment elle va se mettre à travailler et son mari ne le supporte pas puisque elle lui coupe les couilles, hein, c'est dit comme ça, avec toute cette espèce de schéma freudien dont Betty Friedan montre que, très loin d'ailleurs des textes de Freud, bon, qui par ailleurs sont quand même assez misogynes, mais très loin quand même de tout de la pensée freudienne extrêmement complexe, il y a une espèce de psychologie freudienne très simplifiée et très réactionnaire qui se met en place aux États-Unis, et c'est absolument passionnant cette histoire-là, et qui apparaît déjà dans les films. Jamais chez QCOR. Donc ça, c'est vraiment quelque chose déjà qui est essentiel. Si on pense à ses tout premiers films, donc il commence au début des années 30. Donc lui, il est né à Brooklyn. Donc c'est un juif hongrois, mais né aux États-Unis d'une famille du musical, théâtre. Donc il commence assez vite à Hollywood. Il va assez rapidement, on va le faire travailler sur Autant en emporte le vent. Il va travailler pendant 2 ans sur Autant en emporte le vent, que finalement il ne réalisera pas, et puis une semaine sur Le Magicien d'Oz, dont il est apparemment quand même le directeur artistique, enfin qui était vraiment qui lui doit beaucoup. Et puis très rapidement, 1935, il y a ce film extraordinaire qui est le film le plus, pour moi, peut-être le film le plus inouï qui est produit à Hollywood, qui est Sylvia Scarlett, hein, avec Catherine Hepburn, où est en place ce qu'on pourrait appeler maintenant une éthique, hein, queer, hein, c'est même pas une esthétique, c'est vraiment une éthique. Alors c'est vraiment, comment dire, la question. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Catherine Hepburn, qui est la fille d'un escroc et qui va rencontrer un autre escroc, Cary Grant. Donc cette jeune fille est littéralement sacrifiée dans une famille vraiment assez glauque, assez sordide, où elle doit travailler pour son père qui passe son temps à arnaquer. Et puis il y a un concours de circonstances qui fait qu'elle va déguiser en homme, en jeune homme, pour échapper à la police, ou je ne sais plus trop, je l'ai vu 300 fois, mais j'oublie toujours ce truc. Et donc, elle se retrouve compagne, complice, hein, partners in crime, parce que son père a pris Cary Grant comme complice de Cary Grant, et il y a donc toute cette histoire. Et il y a un moment de leur complicité, y compris amoureuse, de deux garçons, elle étant un garçon... sachant que Catherine Hepburn, moi j'avais écrit sur elle il y a longtemps, j'avais une théorie... Enfin, j'ai des théories un peu sur plein de choses, mais j'avais une théorie sur les blondes, donc nécessairement une théorie sur les brunes, puisque les deux vont ensemble. Et à part, il fallait évidemment une théorie sur les rousses, qui est pour moi le troisième genre, enfin c'est un autre genre, hein, vraiment littéralement. La rousse, alors il y a différents types de rousses, je ne vais pas me lancer là-dedans, ça serait intéressant ceci dit. Mais donc si on prend la rousse wasp, hein, c'est Catherine Hepburn, mais il se trouve que Catherine Hepburn, elle a perdu un frère très jeune qui est mort suite au jeu que le père leur faisait faire, qui était un jeu qui consistait à s'étrangler. Alors, s'est-il suicidé ? Est-il mort de cette mort un peu induite ? Le fait est qu'à partir de là, donc ça c'est un peu ma théorie, mais je suis sûre qu'elle est vraie, Catherine Hepburn a même changé sa date de naissance pour se vieillir, en l'occurrence, pas pour se rajeunir. Elle est entrée, son frère est entré en elle. Elle est devenue, voilà. Elle a abrité, je pense, le fantôme de son frère mort. Et elle est devenue, effectivement, cette femme-garçon. Alors, je ne suis pas en train de ramener l'homosexualité, par ailleurs, planquée, mais réelle, de Catherine Hepburn du tout à cette histoire. Je ne sais pas du tout je ne suis pas en train de faire de la psychologie là-dessus. Mais pour dire qu'il y a une complexité inouïe de cette actrice que Cukor va saisir et qui va saisir dans une scène absolument extraordinaire, qui est peut-être la plus belle scène de l'histoire du cinéma, où Catherine Hepburn revient en femme, elle s'habille en fille, ce qu'elle est en théorie, mais ça ne marche pas, elle n'y arrive pas. Donc elle fait son entrée dans la scène avec Cary Grant qui éclate de rire quand il la voit avec sa robe longue à fleurs d'été et puis un chapeau. Et comme on est au cinéma et qu'on a une seconde chance, ce qui est à peu près jamais le cas dans la vie, c'est pour ça qu'on va au cinéma d'ailleurs, pour avoir une seconde chance, il lui dit « recommence » et donc elle sort du champ. C'est pas coupé, d'ailleurs le plan est très long, c'est un plan séquence, et elle revient, et là elle a la chance de naître en tant que femme, quoi, sous le regard de Cary Grant et de Cukor, évidemment, qui l'a fait naître en tant que femme, et là ils s'embrassent. C'est une scène absolument extraordinaire parce qu'on voit ce qui est le baiser, le baiser hollywoodien. On voit à quel point Cukor en fait quelque chose d'une. Enfin, ce qui est le baiser en général d'ailleurs, hein, quel que soit son genre ou son style, quelque chose d'une complexité extrême qui a à voir avec la manière dont une relation peut naître et dont quelqu'un n'existe que dans le regard de quelqu'un d'autre. Hein, c'est-à-dire, elle est femme dans le regard de cet homme, comme les acteurs, évidemment, on le sait, n'existent que dans le regard d'un metteur en scène. Donc, c'est un long trajet pour, comme dirait Bresson, pour arriver jusqu'à toi, mais pour arriver jusqu'à ta question. Mais voilà, il y a ça aussi. C'est-à-dire que... C'était quoi la question, d'ailleurs ? Tu sais que je réponds à des questions, c'est notre petit jeu talmudique, hein, par d'autres questions. Directeur d'actrice, directeur d'acteur. Comme disait Cary Grant, les acteurs sont des actrices. Hein. Déjà, il n'y a pas de genre au cinéma. C'est ce qui fait la complexité philosophique. Enfin, pas la complexité, mais la subtilité philosophique inouïe du cinéma, c'est qu'on ne peut pas dire que... Et encore une fois, bien entendu, ce n'est pas parce que j'ai pris deux acteurs homosexuels que je dis ça, du tout. Hein, ça vaut pour...
Je veux dire Cary Grant et...
Absolument, comme disait Deleuze, ça peut valoir pour une théière. Enfin, je ne sais même pas s'il a vraiment dit ça, mais... C'est-à-dire que le cinéma féminise. Hein. Le cinéma, c'est le féminin. Donc, à partir de là, tout est féminin au cinéma. Un paysage. Hein. C'est un art du féminin depuis le début. Hein. Et celui qui l'a extrêmement bien montré, c'est le philosophe Stanley Cavell, dont on a parlé déjà la dernière fois. Donc, Cukor, il commence là. Il commence, en effet, sans doute un peu comme un cinéaste, comme Jacques Rivette, à se voir à travers une femme. Et à se voir lui-même, à faire son propre autoportrait à travers une actrice, mais qui peut être un acteur aussi bien, mais qui est cette actrice qui a beaucoup été Catherine Hepburn, qui a beaucoup été... Et il va affronter toutes les questions que seules les femmes affrontent. Par exemple, comment est-ce qu'on peut être belle et intelligente ? Alors, évidemment, cette question est débile. Hein, je la juge, personnellement, je la trouve débile. Il se trouve que depuis des millénaires, hein, c'est une question que la norme sociale a instituée comme une question digne de ce nom, même si, à vrai dire, je la trouve aussi stupide que choisir entre son mari et une carrière. C'est une question que les femmes doivent affronter. Donc, Cukor les affronte. Et il les a affrontées notamment avec une actrice inouïe, enfin d'un génie, une actrice absolument oubliée, mais qui renaît pour moi dans toutes les sitcoms, comme notamment Seinfeld, où elle a une influence énorme. Hein, je pense particulièrement à l'actrice qui joue la mère de George. C'est Judy Holliday. Une des actrices avec Carole Lombard qui aura le mieux joué la bêtise. Hein.
C'était une actrice de Cukor dans les années 50.
Absolument. C'est, donc là, on est dans les années 50. Je pense à Comment l'esprit vient aux femmes, Born Yesterday. Ou Cukor, d'ailleurs, pour préparer cette séance, je revoyais un extrait, enfin une interview de Cukor parlant de Judy Holliday. Et parlant de l'intelligence de Judy Holliday, qui était une intellectuelle, qui était une grande intellectuelle, qui ne faisait que lire, qui avait une culture classique énorme, et qui effectivement a réussi à jouer les imbéciles absolus, comme seul le cinéma américain d'ailleurs sait construire, hein, cette figure de l'imbécilité qui probablement, tu parlais d'innocence la semaine dernière, a à voir avec la jeunesse absolue de ce pays qui est littéralement « born yesterday ». D'ailleurs, tiens, je viens d'y penser, ce film parle de ça, en fait. « Born yesterday », c'est l'Amérique. Alors, ce n'est pas le pays de Cukor exactement, puisque ses ancêtres sont morts dans les camps. Mais ça, ses ancêtres sont nés, je veux dire, et morts en Europe. Mais c'est un pays très, très, très neuf et qui, sans doute, a un âge mental aussi tout, tout, tout petit, comme Judy Holliday le figure dans ce film, où elle va incroyablement loin avec l'appui et la complicité de Cukor dans une voix, une diction, une espèce de mise en scène folle furieuse de ce qu'est une femme bête en renvoyant ce miroir-là. Bon, Gaslight 44, c'est le plus grand film jamais réalisé sur la norme traditionnelle chrétienne hétérosexuelle du mariage, c'est-à-dire une entreprise de destruction d'une femme par son mari qui consiste pas directement à la tuer, enfin il en a tué une avant, ça serait trop simple, mais qui consiste essentiellement à à lui retirer toute forme de raison, toute forme de liberté, et surtout à la convaincre qu'elle est folle par une sorte de manipulation que Cukor va filmer en 1944, sachant que c'est pareil, il y a eu un film avant anglais. Il y a eu une pièce de théâtre, et c'est très intéressant de voir si on voit le film anglais ou si on lit la pièce de théâtre, que l'histoire est située à l'époque victorienne, donc évidemment la grande époque, probablement une des époques les plus réactionnaires en termes de normes de la famille, en termes de traitement des enfants et des femmes et des pauvres dans la société, en l'occurrence anglaise. Donc évidemment, dans ce contexte-là, l'absence totale de liberté de la femme dans le cadre conjugal intéresse le dramaturge anglais. Cukor fait ça en 44 et il en fait aussi, c'est le sujet du coup de mon livre aussi, il en fait un film sur le nazisme et il en fait un film, il est le premier à dire dans ce film qu'il y a une continuité entre la violence conjugale et la violence politique. Que ce que vit Ingrid Bergman dans son foyer domestique avec donc ce mari de Charles Boyer, c'est la même chose que ce qui se passe dehors, dans le dehors, le vrai dehors du film, qui est donc les dictatures. Il a une thèse, en fait, qui sera celle d'Anna Arendt des années plus tard, hein, mais qui est absolument, tout à fait explicitement posée dans Gaslight. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'explorer le génie, vraiment. Enfin, je dis génie, les grands cinéastes, il y en a plein, hein, mais des génies, il n'y en a pas des masses. Génie au sens où Rossellini est un génie, c'est-à-dire quelqu'un qui historiquement, à chaque époque, est absolument en avance, hein, puisque tout ce que je viens de dire là, on voit à quel point ça nous parle, nous, maintenant, et ça date pourtant d'il y a presque un siècle, est en avance et va inventer une forme pour dire ce questionnement, jusque dans Rich and Famous là, où on voit que tout ce à quoi on pourrait s'attendre du catfight, hein, c'est-à-dire de l'éternel, enfin, pour le coup, une des figures de la misogynie, il y en a plein de figures de la misogynie. Il y a la conjugalité, il y a la bêtise, et puis il y a la rivalité, la soi-disant rivalité féminine, hein, instituée, dont tous les grands cinéastes hommes, et alors je pense pour le coup aussi à Jacques Rivette, qui ne sont pas des cinéastes misogynes, il y en a plein en réalité, hein. La notion de male gaze, elle est très importante, elle est apparue en 75, c'est une notion, 73 je crois, elle est très importante, mais elle ne doit pas masquer par ailleurs, et d'ailleurs elle ne masquait pas, hein, comment s'appelle, Laura, merde, son nom m'échappe, tous les noms m'échappent, Laura Mulvey, voilà. Qui a donc écrit ce texte génial sur le male gaze. C'est par ailleurs une des plus grandes spécialistes du cinéma hollywoodien. Et quand elle écrit ce texte, elle s'appuie beaucoup sur le cinéma hollywoodien qu'elle ne jette absolument pas. Hein. Donc juste, je termine sur cette histoire de rivalité féminine. Par rapport au premier film, où vraiment c'est du crépage de chignon dans ce qu'il a de plus... vraiment, c'est la basse-cour, quoi. C'est tous les clichés misogynes, les nanas qui se rentrent dedans, qui se piquent leur mec, qui se piquent leur livre, etc., qui sont dévorées d'envie. Là, on voit comment Cukor va déplacer complètement cette question. Et surtout... À la différence du premier film, il n'y aura plus de ce ne sera plus deux femmes manipulées par un homme, Doug, enfin le mari entre les deux, et qui va d'ailleurs dans le personnage masculin dans le premier film a une grande bassesse, hein, la scène où il va les faire en sorte d'attiser le conflit, enfin peut-être pas raconter cette scène-là, mais là il déjoue complètement dans un ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à un autre film, hein, qui est un des très 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 grands films qui déjoue tout ce stéréotype de la rivalité féminine. C'est Les hommes préfèrent les blondes de Howard Hawks, hein, où il s'agit précisément d'une femme qui va par deux. Là, c'est pareil, hein, elles sont indissociables. Et même, je dirais, moi, la première fois que j'ai vu ce film, enfin, je l'ai vu plein de fois et à chaque fois, je l'ai vu différemment. C'est ça qui est extraordinaire avec les grandes œuvres. Elles nous voient autant que nous les voyons. Et c'est vrai que là, je l'ai revu différemment. Et la dernière fois que je l'avais vu, j'avais vraiment vu une opposition. C'est vrai que le film date de 81. Le discours sur Proust est absolument déchirant. C'est un discours testamentaire qui dit la fin d'un monde, qui dit aussi la fin de Hollywood, qui dit le remplacement du grand cinéma classique qui est acté là, hein, au moment où il fait ce film, par la télévision, par un modèle de vulgarité qui va être aussi celui des années 80, qu'incarne évidemment le personnage aussi de Candice Bergen, hein, qui prend en charge tout ce côté sud, réactionnaire, tout cette Amérique qui n'est évidemment pas du tout celle de Cukor. Et puis en face, il y a le personnage proustien, donc on pourrait dire, si on reprenait un terme balzacien, le cénacle, c'est-à-dire la vraie écrivaine, celle, le vrai écrivain, donc, qui est une femme, ce qui est déjà un coup de force, hein, de Cukor, de prendre cette figure qui est une figure historiquement masculine et de l'incarner à travers cette femme. Oui, alors après je vais te laisser parler, mais juste, je voulais, je sais pas, faut que je me mette à parler de plus en plus vite, c'est parce que j'ai peur de pas réussir à tout dire tellement ce film est beau. Oui, je trouve que là il y a quelque chose que j'avais pas du tout vu et qui m'a frappé, c'est qu'elles sont vraiment complémentaires, c'est-à-dire que même sur le plan artistique, il faut les deux, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au fond, le testament de Cukor comme cinéaste, au fond, se partage entre les deux figures. Et on voit d'ailleurs dans cette esthétique du film, avec cette musique de Delerue, ce côté presque un peu soap du film, hein, que je trouve sublime, hein, qui a un côté déjà un peu télévisuel, enfin, pas du tout dans la mise en scène, qui est d'une précision vraiment millimétrée. Mais il y a quelque chose, voilà, d'un monde qui finit, et il laisse finalement aussi sa chance à Malibu, hein, ce que j'avais pas vu en fait la dernière fois que je l'ai vu.
Cukor a fait un film qui s'appelle, avec Greta Garbo, qui était d'ailleurs, je prends le dernier film de Greta Garbo, qui s'appelle La femme aux deux visages. Et on se dit,
Two-faced woman.
Voilà, oui. Et parfois on se dit qu'effectivement il y a indubitablement deux femmes, mais que c'est peut-être aussi deux visages d'une femme. Il y a quelque chose effectivement qui est très beau dans le film, c'est que elle s'écharpe et elle s'étripe, mais elles ont ce qui est révélé évidemment par la séquence finale, il y a une complémentarité, il y a une complicité, il y a une envie qui est productive, il y a de l'admiration, il y a du désir, et effectivement on a l'impression d'un double portrait qui n'en fait qu'un, et que c'est une femme complète. Enfin, il faut deux femmes pour faire une femme complète.
Exactement. Non, c'est génial que tu parles de Two-Faced Woman, parce que je voulais en parler, bien sûr, et tu as raison de le rappeler. Effectivement, Two-Faced Woman, c'est un film extraordinaire où Greta Garbo va... c'est une sorte de, comment dire, de prolongement de Ninotchka, mais très différent, hein, où elle joue sous la caméra de Lubitsch, avec qui d'ailleurs Cukor avait co-réalisé un de ses premiers films. Où elle joue donc une femme complètement, mais c'est la même femme qui change, disons, une femme donc dans Ninotchka très rigide, soviétique, et puis la même version capitaliste déchaînée, surexcitée par le profit et l'Amérique. Donc dans Two-Faced Woman, elle est, c'est une femme qui, pour séduire son amant, va changer de personnalité, va se faire passer pour sa jumelle, va s'inventer une sœur jumelle qui est absolument tout le contraire de ce qu'elle est. Donc elle, c'est une skieuse austère, une espèce de, alors un petit côté Leni Riefenstahl, enfin ça, elle est toujours dans la neige, il faut toujours de la neige, elle passe son temps à skier. Enfin c'est Greta Garbo version grande nordique. Et puis l'autre, elle est, c'est une sorte de, enfin elle est déchaînée, enfin déchaînée, pas du tout déchaînée en vrai, mais enfin juste, elle drague tous les mecs qui passent, elle est tout le temps en robe de soirée, elle a toujours une coupe de champagne à la main, elle se bourre la gueule, etc. Bref, mais effectivement, comme tu le dis très évidemment, que c'est la même. C'est-à-dire qu'on voit... et là, dans le film, hein, c'est ce qui est très beau, effectivement, c'est qu'il faut... Et c'est sans doute pour ça qu'il a tellement filmé... les personnages féminins, généralement, sont plus complexes. Hein. À vrai dire, tous les personnages minoritaires, d'une manière ou d'une autre, sont plus complexes, précisément parce qu'ils ont à affronter tout ce que je disais au début, c'est-à-dire une série de contraintes, d'obstacles, hein, pour ne pas dire de guerres, de conflits, de cauchemars, de tentatives de meurtre, d'extermination, etc., etc., you name it. À partir de là, ils sont nécessairement plus complexes, ces personnages, à moins qu'ils soient vraiment totalement idiots, ce qui peut arriver, mais dans ces cas-là, on n'en fait peut-être pas nécessairement un film. Donc, le personnage féminin, effectivement, là, ce qu'il nous montre, c'est qu'il en faut deux, au moins, pour arriver à contenir cette complexité inouïe de cette figure d'écrivaine qui est lui-même à travers ces deux femmes.
Parce qu'en fait, il caricature parfois ou il croque un peu le personnage de Candice Bergen, mais enfin, le film ne se fait pas du tout le personnage. C'est-à-dire qu'il lui donne sa chance. Oui. Et il y a des moments, elle a des moments de solitude ou des moments de réflexion qui prouvent à quel point elle est aussi regardée. Là où effectivement je te rejoins quand tu dis qu'il y a du génie, mais je ne sais pas si c'est du génie dans le système hollywoodien ou si c'est du génie Cukor, c'est qu'il faut aussi savoir que finalement, ce film, il arrive à Cukor un peu par hasard et déjà fait. C'est-à-dire que Cukor ne tourne quasiment plus. C'est un film qui est commencé par un autre cinéaste, qui s'appelle Robert Mulligan, que le scénario est déjà entièrement écrit, que les décors ont été choisis et que au moment où Mulligan, au début des années 80, à la fois parce qu'il y a une grève des acteurs et puis parce que visiblement il a un différend artistique sur le film avec l'une des deux actrices, sans qu'on sache laquelle, abandonne le tournage. Donc la MGM se tourne à ce moment-là vers Cukor. Ils hésitent et ils lui proposent le film. Mais donc il hérite en quelque sorte d'un...
C'est pas la première fois d'ailleurs, voilà. Ça lui arrive ça.
Ce que je veux dire, c'est à quel point le film lui correspond, à quel point le film est pour lui et à quel point finalement c'est un accident un accident de l'usine que cette histoire lui échoue. Et alors qu'elle est, on dirait, presque une récapitulation de l'univers de Cukor. C'est ça que je trouve absolument magnifique, c'est comment effectivement... Et lui-même disait qu'il était une sorte de scénariste qui n'écrivait jamais une ligne. Donc il travaille avec le scénariste en lui donnant des idées. Donc il remodèle effectivement l'histoire d'origine et il s'éloigne complètement du premier film dont on peut considérer que c'est l'adaptation la plus proche, sans doute, de la pièce. Il travaille comme ça et au final, ça donne ce résultat. Et peut-être qu'il faut se dire aussi que si ça donne ce résultat, c'est pour les raisons que tu dis, c'est-à-dire l'empathie de Cukor avec les actrices, mais aussi cet art qui était le sien et qui était celui de son époque aussi parmi les plus grands, c'est-à-dire cet art de la transparence, cet art de la mise en scène invisible qui fait qu'on voit... On peut, si on est très attentif, voir des mouvements de caméra, mais on peut, je dirais, comme les rayures de la copie, au bout d'un moment, ne plus du tout y penser et ne pas savoir comment on est passé de l'un à l'autre ou comment finalement la scène a été découpée tellement il y a quelque chose de fluide, d'incroyablement irrésistible qui fait qu'on fait partie de ce qui est vu. Et il avait, je lui dis juste ça parce qu'il avait une technique ou une astuce que je trouve remarquable. Il disait... Parce qu'il avait l'habitude de faire des prises longues. On le voit, hein, d'ailleurs, dans le film, il y a des moments, c'est assez peu, c'est découpé par moments, mais il y a des moments, le plan est très long. Et donc, il faisait des longs plans et aussi, il faisait beaucoup de prises. Et donc, il expliquait que pour obtenir des acteurs quelque chose, il les faisait... Il disait avec Spencer Tracy, c'était compliqué parce qu'à la quatrième, il avait tout donné. Mais il disait, j'avais une technique qui consistait à relancer sans couper. C'est-à-dire, il dit, si vous faites une prise, que vous dites couper, c'était bien, mais on va la refaire. Dans le moment où vous dites couper, entre dans le champ la costumière qui arrange le costume de l'actrice, la maquilleuse qui fait un raccord maquillage, et il dit, et vous perdez la conduite. Vous perdez ce que vous aviez presque attrapé. Donc, il disait, on va la refaire, mais il ne disait pas couper. Ce qui fait qu'il disait qu'il fallait que la pellicule continue à tourner. Et il disait qu'on pouvait comme ça faire jusqu'à 3 relances et 3 prises sans jamais couper, si bien qu'on ne perdait pas ni l'énergie ni le flux, et on pouvait, comme ça, dit-il, obtenir quelque chose qu'on avait presque obtenu dans la... Et je me dis que quelque chose de la magie du jeu entre les deux actrices tient peut-être à quelque chose de cette expérience qu'il avait avec les acteurs, qui fait qu'il était capable de créer les conditions de leur jeu.
Oui, je pense que ça donne, effectivement, non, c'est très intéressant ce que tu racontes, ça donne une sensation de durée qui est proustienne, en fait. Hein. Je pense que la référence à Proust, elle est pas, c'est pas une coquetterie, en fait. Y a quelque chose, d'abord, c'est son temps retrouvé, ce film. Et puis, on a une sensation, c'est ce que ça raconte quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est sa recherche du temps perdu et son temps retrouvé à la fois.
Ça se déroule sur 20 ans.
Voilà, donc ça se déroule sur 20 ans. On a le génie, pour le coup, de mise en scène, c'est qu'on a l'impression d'un seul plan séquence, d'une certaine manière. La sensation, je parle du ressenti, comme on dit pour la météo, du spectateur, c'est un plan séquence de 117 minutes. Il y a quelque chose de tellement enveloppant, fluide, comme tu dis, d'une douceur, hein, et qui a à voir sans doute avec ne pas justement faire se couper, c'est un peu violent, c'est un peu brutal, c'est un peu agressif. Donc je comprends qu'il se soit passé de ça. Et on voit, il y a aussi une fatigue, hein, dans le regard qui se voit, notamment chez Jacqueline Bisset, qui vient de la répétition des prises et tout, et qui cherche sans doute une lassitude, hein, plus qu'une fatigue. Quelque chose d'une lassitude qui s'installe dans ses yeux, dans les petites rides au coin des yeux, dans ce regard, bon, d'une beauté sidérante, mais ce regard bleu comme ça. Et tout passe, c'est un film vraiment où ils sont tous regardés en permanence, ils sont tous sous le regard les uns des autres. Et c'est comme si vraiment le fantôme de Cukor était là son regard à lui est là. Quand elle dit à un moment je veux être seule dans ma chambre avec le fantôme de Dorothy Parker, il y a quelque chose de ça dans le film, hein. Pardon ? Dorothy Parker, qui était une grande écrivaine et novelliste américaine, donc elle descend à l'Algonquin, qui est effectivement un hôtel mythique à New York, entre autres pour tous les écrivains qui s'y sont installés ou qui y sont passés. Et à un moment, quand elle renvoie le jeune homme, au début le mec, le journaliste de Rolling Stone, elle lui dit elle renvoie sa nièce, enfin sa fausse nièce, qui veut dormir dans sa chambre, et elle dit moi je veux rester seule dans ma chambre, je veux être seule avec le fantôme de Dorothy Parker. C'est un film très hanté, je trouve, hein, très hanté dans un sens, alors pas dans un sens gothique comme Hantise, comme Gaslight, qui est un film évidemment de Hantise. Mais dans un sens très doux, en fait, où il fait remonter. C'est un film très peuplé, trouve que effectivement.
Il y a beaucoup de présence amie, voilà. Dont des écrivains.
Et voilà, mais je trouve que dans chaque plan, chaque plan est peuplé, peuplé de plus que même quand Jacqueline Bisset est seule ou quand elles sont deux, c'est beaucoup des duos, hein, qui sont rejoués à chaque fois différemment, avec le jeune prostitué, cette scène. Une des scènes les plus ouvertement homosexuelles, hein, de l'histoire du cinéma. C'est dingue qu'il fasse ça.
C'est-à-dire qu'en fait, tu dis ça parce qu'effectivement, là, le corps s'autorise à filmer un corps masculin et à travers le regard de Jacqueline Bisset, de le regarder lui aussi.
Oui, d'ailleurs, on ne voit que des corps masculins dans ce film. On ne voit pas de femmes nues. Les mecs qu'on voit à moitié nus ou torse nus, c'est que des hommes.
On voit des torses, on voit pas de poitrine.
Voilà, exactement. Mais je veux dire que cette scène-là, le duo, ensuite le duo qui est repris avec le journaliste, le duo des deux femmes, les deux duos, il n'y a pas de trio, il n'y a aucune mesquinerie. C'est un film dépourvu de toute mesquinerie humaine. Alors que le premier est vraiment le scénario de base dont il est parti, c'est un sommet de mesquinerie piaillante et braillante. Enfin, c'est vraiment assez pénible, je trouve, même le premier film. Ça, c'est délirant, la différence entre les deux, alors que c'est quasiment le même scénario. Et donc, dans ces plans à deux, je trouve que ce sont des plans, oui, peuplés, qui sont... Alors, est-ce que c'est aussi... Est-ce que ça a à voir avec un... Enfin, la dimension, pas la dimension testamentaire, mais la dimension humaniste de Cukor. Hein. Je pense que, encore une fois, c'est ce que je redécouvre à chaque fois que je revois Gaslight, que j'ai vu des centaines de fois. C'est vraiment un film qui dit quelque chose sur son époque et sur... C'est pour ça que je le comparais à Rossellini tout à l'heure. Hein. C'est au fond aussi un film qui fait renaître le cinéma de ses cendres après que le cinéma aussi a été exterminé par le nazisme. 44, donc ce film-là. qui est un film de fantômes, une histoire de gaz, une histoire de gens tués par le gaz. Enfin, c'est complètement inouï, la prescience historique de Cukor à ce moment-là. Donc, il y a cet humanisme-là, européen, qui est là, même s'il est né à Brooklyn. Et je trouve, voilà, le spectateur, il y a un truc très ouaté dans ce film, très smooth.
Et puis, entre le premier et le deuxième film, ou entre Gaslight et celui-là, il s'est écoulé 40 ans, c'est-à-dire que ce que Cukor a toujours filmé, je dirais, comme le code de la censure le permettait, c'est-à-dire de manière oblique, ou de manière suggestive, ou de manière de moins en moins suggestive, là, en quelque sorte, il fait des scènes qu'on dirait osées, ou en tout cas, il peut filmer, sinon frontalement, du moins clairement, l'acte sexuel, qui est aussi un des sujets du film. Oui. Même si je pense que, mais là-dessus, on va vous donner la parole et vous allez nous dire, même si je pense que fondamentalement, on passe par plusieurs sujets, mais celui qui lui tient le plus à cœur, c'est celui que la fin révèle, à savoir presque la fidélité en amitié ou l'amitié entre ces deux femmes ou la réunion de ces deux femmes en une. Enfin, je pense que là,
et puis peut-être ce qui est le cœur du film. Enfin, ça, encore une fois, je pense que ça doit te faire pareil. À chaque fois que je le vois, j'y vois un cœur battant différent. Je pense que la matière même de ce film, c'est le désir, en fait. Le désir, mais au sens vraiment très profond, complexe, vaste du terme, qui englobe aussi bien le désir sexuel, le désir amoureux, le désir de vivre. C'est un film sur le désir de vivre, essentiellement, sur, effectivement, comme tu le disais, comment des sujets aussi mesquins que des relations d'envie dans le premier film sont transformés là, plus en, pour parler comme Rousseau, on passe de l'amour propre à l'amour de soi, c'est-à-dire à quelque chose qui peut être un moteur pour quelqu'un, qui n'est plus juste une forme dégradée hostile, agressive de relations humaines ou non humaines. Et puis, ce qui est inouï aussi, inouï dans l'histoire du cinéma, c'est que, donc je le disais, son actrice, enfin les deux actrices, ce sont deux écrivaines. Les figures d'écrivaines au cinéma, il y en a eu très peu. Moi, j'avais consacré un long texte à cette question dans les cahiers du cinéma, parce que c'est passionnant, c'est le contre-champ de l'actrice. C'est-à-dire, l'actrice, historiquement, c'est celle qui est regardée, toujours. Donc, au point que ça peut être, comme dans mon livre « Trois femmes disparaissent », une proie absolue, c'est-à-dire vraiment... ça peut être quelqu'un, une femme ou quelqu'un qui est féminisé comme tel, qui devient la proie d'un regard, qui est enfermé dans une cage, où il peut être, il ou elle, violenté, torturé par ce regard, possédé, propriété de ce regard, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas droit de regard, historiquement, l'acteur. Là, la figure de l'écrivain, historiquement, l'écrivaine, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'écrivaine, historiquement. Ça arrive très tard. Ça arrive avec Mary Shelley, en tant que formulation dans son œuvre, invention de cette sorte de monstre qui est une femme, que serait pour la société une femme écrivaine. En tout cas, c'est quelqu'un qui regarde. C'est pas quelqu'un qui est regardé. Et c'est quelqu'un qui écoute. Et on voit d'ailleurs comment, dans une scène qui a fait beaucoup hurler de rire les deux écrivaines de la salle, mais que je trouve sublime parce qu'elle érotise, au fond, l'écriture. Elle répond, elle a cette ironie, comme elle le dit, qui est extraordinaire, Jacqueline Bisset. Et quand il lui parle d'écouter le jeune mec, son amant, celui dont elle tombe amoureuse, et des oreilles, du fait qu'il ne parle pas beaucoup, lui, il écoute. Et elle dit « Ah, tu m'écoutes avec tes appareils sexuels, hein, », c'est ça. Surrogate ? Non, c'est pas surrogate, je crois que c'est tes petits appendices. Voilà. Et donc, ce qui est très beau là, c'est qu'il y a une érotisation de l'écoute, il y a une érotisation de ce que fait la femme écrivaine. Et cette femme qui... Alors, les figures d'écrivains dans les films, hommes, c'est toujours, ça se ramène à ce que Stephen King appelle la défense Hemingway, c'est-à-dire essentiellement un homme qui se bourre la gueule et qui baisse des nanas, et essentiellement qui n'arrive pas à écrire, qui oscille entre panne sexuelle et panne d'écriture. Et donc, du coup, il n'écrit jamais, ça se passe dans un bar, ou, etc., etc., etc. Alors ça, évidemment, ça donne des grands films genre Barfly, mais je veux dire, c'est vraiment un stéréotype. Par défense Hemingway, Stephen King ironise sur ce modèle viriliste de l'écriture, où évidemment la femme n'a pas de place. Et d'ailleurs, dans le premier film, elles sont écrivaines comme moi je serais, je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne les voit jamais écrire, ça n'a aucun sens. Elles pourraient être n'importe quoi d'autre, c'est totalement bidon. On se demande même pourquoi ils ont choisi ça, en fait. Ah, je ne suis pas d'accord. Je trouve que là, on ressent l'écriture, et même la scène sublime où elle interrompt, elle est en train de faire l'amour avec son mari, je parle de l'écrivaine du Sud, et où elle se lève. Alors évidemment, c'est un peu naïf, ça fait un peu développement personnel, c'est très à l'américaine, mais je trouve ça magnifique, cette scène, où elle écrit, et elle va enfin faire son vrai livre là, sur sa mère.
Au tableau noir.
Elle va au tableau noir, elle a sa citation à la con de développement personnel, mais peu importe, l'écriture, c'est, je ne sais pas, 10% de respiration, 90% de transpiration, je ne sais pas quoi. Bon. Et il y a ça, et le personnage de Jacqueline Bisset, elle est écrivaine à chaque plan. D'abord, elle ne cesse de regarder, d'écouter, de regarder. Elle a un regard, bon, je pense qu'il l'a choisi pour son regard, parce qu'elle a un regard extraordinairement beau. Mais elle a un vrai regard. Elle a un regard. Il y a des actrices qui sont sublimes et qui ont un regard d'un vide intersidéral. Jacqueline Bisset, elle a un regard. Vraiment, on peut la regarder, regard en train de regarder. Donc, voilà, et le désir, c'est le moteur, qui est aussi bien le désir dans l'amitié, le désir d'amitié, je veux dire, je ne parle pas d'un truc d'histoire à la con, avec des stéréotypes hétéros de nanas ensemble, donc évidemment, elles vont baiser pour exciter un mec. C'est pas le film est totalement ailleurs. En revanche, il y a du désir à chaque plan, et c'est bouleversant de penser que Cukor, donc, qui a 82 ans quand il fait ce film, et vraiment nous transmet ça, en fait. Et nous transmet à travers ces figures, qui sont des figures vraiment des figures, donc, des femmes qu'on ne peut pas dénuder, qu'on ne va pas dénuder. Donc, qu'est-ce que va faire le spectateur pendant 2 heures? Comment il va pouvoir s'exciter à regarder même la plus belle femme du monde, Jacqueline Bisset, si elle n'est jamais à poil, si elle est juste l'écrivaine qui trimballe ses bouquins, etc. Et il en fait le sujet, il fait du sujet du regard un sujet digne d'être regardé. C'est un coup de force inouï, en fait. Yakuta, tu voulais dire un truc?
Non, je voulais dire merci, déjà, parce que c'est la première fois que je vois ce film, que j'ai trouvé absolument somptueux, irrésistible. Enfin, merci beaucoup. C'est un grand cadeau de fin d'année et de début de vie, enfin, je sais pas. mais c'est un très beau film. Je m'interroge. Ce qui est frappant aussi, ce qui est très beau et très touchant, c'est ce que vous disiez l'un et l'autre sur la façon dont Cukor finalement se libère. Il a la même fluidité à chaque moment de sa carrière, mais l'époque changeant, il se libère des carcans avec lesquels il composait très bien, parce que c'est un grand cinéaste de la contrainte, sans doute. Et je me posais la question de la réception de ce film. Il a eu quel genre de vie?
Il a eu un très bon accueil critique et public, je dirais, mais c'est un moment aussi 80 où le cinéma américain change et où, comme dirait Jacqueline Bisset dans une interview, c'est le moment où Hollywood ne fait plus des films que pour les 15 ans. Et je pense, je saurais pas dire exactement la fortune publique du film, je suis pas sûr qu'elle soit énorme, mais c'est un moment où le public change, la sensibilité change et les films qui marchent changent. Et donc, je pense que ce film a dû apparaître comme un signe de la persistance de Cukor, mais aussi comme un bourgeon tardif d'une époque classique qui, elle, était passée. C'est-à-dire que le film est vraiment, d'une certaine manière, de plusieurs époques, quoi. Il est de la sienne, mais dans la sienne, il est un peu daté, ou il passe pour daté. Après, il faudrait vérifier ce que je dis, c'est-à-dire sur le succès public ou pas du film, je suis moins sûr. Mais j'imagine pas que ça a été un hit, quoi. J'imagine pas que ça a été un hit, parce qu'on est 3 ans après La Guerre des Étoiles, et là, le cinéma hollywoodien a vraiment, vraiment changé en 81.
Oui, mais il est vraiment hanté par tous les films passés de Cukor, d'une certaine façon, mais il est jamais étouffé par ça. C'est vraiment un film sur les années 80. En vrai,
Il y avait un autre aspect dans ce film que je crois d'ailleurs avoir découvert à Chaillot, où Georges Cukor était nul présenté.
Ah oui, ça vous avez raison, parce que quand le film est sorti en France en février 82, oui. Cukor est venu en France, oui, oui. Parce qu'il a donné plein d'interviews au début à ce moment-là dans les journaux journaux parisiens, et il est venu à la Cinémathèque, alors pas celle-ci, à Chaillot. Et il a été décoré du Chevalier des Arts et Lettres par Jack Lang. Voilà. Oui, à la Cinémathèque.
Bon. C'était une époque. Moi, il y a un autre aspect qui me... Bon, j'ai trouvé que le film, enfin, en le revoyant, qu'il y a quand même des longueurs, mais il y a dans ce double portrait de femme pour en faire une, ce que vous évoquiez, il y a aussi un cliché terrible qui est que ces deux femmes, pour s'affirmer, enfin, il y en a une qui choisit dès le départ qu'elle sera célibataire, et puis celle qui se marie, middle class, etc. Mais il y a quand même ce thème qui revient de la femme castratrice. On le voit très bien avec le personnage de Candice Bergen. Son mari fait très clairement allusion. C'est-à-dire, à partir du moment où elle commence à exister par elle-même, son mari bande plus, il le dit. Et d'un autre côté, le personnage de Jacqueline Bisset, qui, je crois, d'ailleurs, avait coproduit ce film, et elle n'en avait pas gardé un bon souvenir de cette expérience de production. Enfin, je sais. Mais il y a quand même dans le personnage de Jacqueline Bisset qui dit dès le départ « Je serai célibataire ».«
I'll be the unmarried woman ».
Voilà. Mais on la voit quand même tout au long du film vouée aux histoires sans lendemain ou à la solitude. C'est pas très gai.
Alors, moi, je pense que la question, en général, dans la vie, c'est la question du point de vue, en fait. C'est-à-dire que le premier film, enfin, celui dont il est le remake, soulignait à mort la dimension castratrice, c'était même à un point, d'ailleurs, insupportable, du personnage, en l'occurrence, qui était interprété par Miriam Hopkins. Et c'était vraiment, c'est un film militant, pour dissuader les femmes de travailler, d'avoir une carrière. Mais vraiment, c'est un film qui fait partie d'une série de... Bon, c'est un mauvais film, mais par ailleurs, vraiment, il y a c'est une machine de guerre pour montrer quel type de sorcière les femmes deviennent si elles continuent à avoir une carrière, etc. Là, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que, effectivement, cet homme... alors, moi, je pense que le personnage est plus complexe. Il a une dimension quand même... D'ailleurs, c'est marrant, tu vois, dans mon souvenir, il se suicidait. Non, mais parce qu'il picole tellement, il se suicide dans l'alcool, en fait. Donc, je l'avais...
Tu l'avais tué.
Ouais, je l'avais un peu tué. Enfin, non,
parce qu'il est quand même vivant.
Arrête de me psychanalyser. Bon, je vais répondre par une question. Tu crois? Je pense que le film est vu du point de vue des femmes. Or, ce que ça montre, c'est une des questions qu'affrontent les femmes. C'est pas misogyne de dire ça. La question, c'est le point de vue auquel on se place. Je pense qu'effectivement, dans un contexte hétérosexuel, être une femme indépendante, être une femme qui a une carrière artistique, qui réussit, qui est... c'est un problème, oui. D'un point de vue, c'est un problème qui peut se... posé à une femme hétérosexuelle. Ça ne veut pas dire que Cukor dit que ces femmes sont castratrices, il ne le dit absolument pas. Le premier film le disait.
Bah, par rapport au mari, si, quand même.
Non, c'est le regard du mari, mais c'est ce qu'elles ont à affronter. Ce qui n'est pas du tout la même chose, en réalité. Je pense que le film est vraiment du côté des femmes. Le film, il regarde le monde du point de vue d'une femme. Or, les femmes affrontent ça. Après avoir des histoires qui ne durent pas, est-ce que c'est triste? Moi, je ne pense pas. Et je ne pense pas que Cukor le pense non plus.
Ce qui est vrai, c'est qu'elles ont des moments, l'une comme l'autre. Hein. Elles ont des moments de mélancolie ou des moments de solitude.
Est-ce que ce qui est pas triste, c'est d'être mariée 40 ans à son mari dans une...
Non, mais ça, je ne veux pas intervenir sur le fond. Mais enfin, dans le personnage de Jacqueline Bisset, à part la relation qui débute avec le jeune journaliste de Rolling Stone, où là, bon, elle commence à s'épanouir, mais enfin tout le long, elle en prend plein la gueule,
elle
ce qui est peut-être la réalité.
Sexy, hein. Quand elle se tape mais le mec dans l'avion, personnellement, je la trouve
très
sexy.
Mais
prend pas du tout plein la gueule. Elle éclate de rire quand elle voit la femme.
Non, mais je parlais du journaliste de Rolling Stone à la fin qui est très mignon.
Elle s'en prend plein la gueule, elle vit une histoire d'amour et les histoires d'amour peuvent. Elles peuvent vous faire souffrir. C'est pas s'en prendre plein la gueule que d'affronter le risque de l'amour et du désir. Moi, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, vous voyez, j'ai plus eu le sentiment là que vous avez. Cette fois-ci, en le revoyant, je l'ai vu différemment. Alors, je suis pas en train de dire que vous avez tort. Hein, c'est pas du tout. En revanche, là où je pense que, à mon avis, vous êtes pas tout à fait dans. Enfin, c'est pas tout à fait juste ce que vous dites. C'est sur la question du point de vue. Je pense que vraiment, lui observe la misogynie. Je pense que Cukor n'est pas un
sujet. Oui, je suis d'accord.
Et qu'il observe, ce que les femmes doivent se coltiner comme stéréotype. Et dedans, il y a, tu travailles, tu m'as coupé les couilles. Évidemment que ce sont des conneries. Mais ce sont des conneries qui sont instituées depuis des millénaires et qui sont majoritaires. Oui. Donc on ne peut pas ne pas les traiter.
Parce que comment l'homme dans l'avion fait croire que sa femme est morte, qu'il ne peut pas enlever la...
Il n'a pas enlevé l'alliance juste parce qu'il a tellement picolé que son doigt est gonflé. Quoi. Enfin, ça, je... vous rendez compte l'élégance de du personnage, l'élégance de l'ironie de cette nana qui éclate de rire. C'est extraordinaire. Il y a zéro amertume.
Elle se victimise. Absolument pas, parce que l'histoire de l'avion, elle pourrait être effectivement en être affligée.
Et elle pourrait s'engueuler avec la femme, blablabla.
Et elle éclate de rire.
Et là, on tomberait dans le stéréotype.
D'accord. Vous voyez, le personnage de Candice Bergen, ça va quand même très loin, parce qu'elle perd son mari. Alors qu'apparemment, au début, elle est très. Oui, oui. Mais elle est très caricaturale au départ, enfin, un peu vraiment gnangnan. Après, on comprend qu'elle est quand même pas si nulle que ça comme écrivain, contrairement à la version de Vincent Sherman, où elle fait vraiment des romans à l'eau de rose. Là, elle a quand même un prix littéraire. Elle essaie de raconter une histoire un peu profonde, inspirée de l'histoire de sa mère. Mais à la fin, elle perd aussi sa fille.
Elle perd pas sa fille, elle va trouver un boulot. Je trouve que
elle perd sa fille. Sa fille est grande. Enfin, il y a un moment.
Oui, oui, voilà. Elle s'échappe. Mais
c'est pour ça que. Elle vient retrouver son amie. Mais parce qu'effectivement,
elle va se taper des mecs en Grèce. Vraiment, là, voyez-vous.
Je veux pas défendre le mariage, mais je trouve que bon, elles ont.
Franchement,
pu avoir des vies un peu. Oui, des trucs plus marrants.
Elle a raison sur le fait qu'à la fin, le projet. C'est quand même d'aller draguer des Grecs.
Elle perd un mari qui picole toute la journée, elle va se taper des mecs en Grèce avec sa meilleure copine. Au passage, ça veut pas. Elle est jeune, elle est belle, elle a plein de fric, elle peut se remarier 300 fois si elle veut, elle peut divorcer 300 fois si elle veut. Je ne vois, il n'y a aucun stéréotype. Et pour le coup, il n'y a pas de stéréotype homosexuel, genre, calasse. Moi, j'appelle ça la calasse. Style, la femme sublime sur un piédestal, c'est la femme tragique qui suicide, blabla, etc. Zéro. C'est-à-dire que le film échappe aussi à ça. Le film échappe à tous les stéréotypes, y compris ceux que Cukor lui-même pourrait avoir et qu'il dépasse avec une... Encore une fois, il y a une telle absence de mesquinerie dans ce film. Et moi, je trouve que pour le coup, j'ai vraiment réévalué le personnage de Candice Bergen qui m'avait un peu effrayée les premières fois, parce que je trouve que même de son envie, elle arrive à faire quelque chose. Et elle est touchante. Elle arrive même à faire, on voit comment elle s'obstine à faire même un beau livre, à écrire quelque chose qui soit autre chose que des sentiments à Malibu. Sa fille, elle va bosser, elle va trouver un boulot, ce qui pour une gosse de riche me paraît la meilleure chose qui puisse lui arriver, donc je vois pas en quoi c'est dramatique. Non, au contraire, c'est un film vraiment qui évite tous les pièges, tous les panneaux dans lesquels les films contemporains continuent à tomber lourdement, 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 même quand ils ont l'étiquette féministe souvent dessus. Donc, c'est vraiment... Non, je trouve qu'il y a vraiment du génie. Enfin,
je répète ça en boucle. J'ai eu la curiosité, enfin facilement simplifiée par l'existence d'Internet, de regarder ce que Wikipédia disait sur la réception de Rich and Famous. Et en général, quoi qu'on pense de Wikipédia, mais sur les films... Il cite très exactement ce qui a été dit. Et ça a été très, très mal reçu.
Ça, aux États-Unis ?
C'est essentiellement... J'ai regardé le Wikipédia en anglais. Hein,
très bien. Oui, très bien.
Par exemple, Pauline Kael, qui n'est pas ma critique favorite, mais qui a été quand même une grande... Enfin, quelqu'un de très, très écouté, dit « C'est pas exactement un film camp, c'est plutôt une fantaisie homosexuelle. » Les histoires de Jacqueline Bisset, avec leur ton, leur contexte masochiste, sont creepy, sont inquiétants, sont flippants, oui, parce que ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi ce dans quoi une femme se jetterait.
Pauline Kael sur son fauteuil en osier. Elle est toujours interviewée sur un fauteuil en osier en train de...
Ça serait si Pauline Kael avait toujours indiqué le nord.
Ouais. Oui, et le New York Times, c'est pareil, et d'autres aussi. Et les actrices sont épouvantables. Le scénariste est très, très, très mauvais. Enfin, bon, voilà. En tout cas...
Alors que c'est remarquablement dialogué.
Hélène, je t'ai envoyé... ça vaut la peine de le lire tellement c'est... Alors, je ne sais pas ce qu'on a dit, les cahiers, l'humanité, le monde, etc. À la sortie.
Les cahiers, en tout cas... il y a eu un papier très élogieux de Charles Tesson.
Ah, c'était Tesson déjà, d'accord.
Et je crois que le titre, c'était « Une femme en moins, un homme en plus ».
En tout cas, moi, je l'ai vu quand il, j'ai l'âge de l'avoir vu quand il est sorti et je l'ai
ah
vu
oui, le,
une bonne demi-douzaine de fois depuis parce que c'est un de mes films favoris. Et je, merci de l'avoir présenté. Merci d'en parler tous les deux si magnifiquement. C'est pas enregistré ce que vous dites là, ce que vous avez dit.
Ah. Vous êtes d'accord que quand même les rayures, on s'en fout, hein. Ça
masse. Il est traumatisé,
Non. J'étais content en fait. Parce que je suis persuadé de ça. C'est une pellicule rayée.
Dis ce que tu as dit.
Dès quand elle est projetée, c'est autre chose. Quoi.
Dis ce que tu as. Ça y est, on a fait un numéro. On est Laurel et Hardy. Dis ce que tu as dit sur quand elle rougit, quand ce qu'on voit avec
oui,
le.
Oui, parce que par exemple, ce qui crée notre émotion, c'est que quand elle, par exemple, dans l'avion, quand ils font l'amour dans les toilettes et qu'elle est, elle a les joues toutes rouges, bah, le 35 mm, c'est un support chaud. C'est un support qui vibre, c'est un support qui vit. Alors qu'en numérique, tout ça est souvent beaucoup plus, j'allais dire, figé. Et je pense qu'une part de l'émotion du film, indépendamment des rayures ou avec les rayures, vient du fait qu'on est sur le support originel, c'est-à-dire une pellicule 35 photochimique, et que ça a son importance ici, puisque les corps, les carnations, les peaux ont une réelle importance dans l'histoire. Et donc, on y gagne. C'est pas la même chose que si on l'avait vu en DVD. Ce ne serait pas été la même émotion. Et encore, Dieu sait que je suis absolument un fanatique du DVD, mais c'est une autre émotion. C'est une autre émotion.
Merci. Je trouve qu'il y a un emboîtage dans le film sur, d'une part, une société européenne, Proust, intellectuelle, etc., d'un côté, et qui s'emboîte pas très bien, malheureusement, avec le côté américain, Born Yesterday, le fric, les grands hôtels, l'argent fait la loi.
Cukor est un homme cultivé, ou en tout cas le scénariste est un homme cultivé, si bien qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de fantômes dans le film, des fantômes littéraires, et qui, pour répondre à Yakuta, devaient paraître au début des années 80, dans un film américain, une étrangeté. Que dans un film américain aussi Yeats et Proust, mon Dieu, c'est au mieux, c'est charmant.
Mais oui, c'est là d'où il vient, c'est ça qui est beau. C'est son dernier film, il va mourir 2 ans après, et il parle de l'Europe, il vient de l'Europe. Moi, je pense toujours qu'il est né en Europe, en fait. Il est né à New York, mais voilà, il vient de Kukor, c'est un juif hongrois, il vient de là, et qui a été, bon, en plus, un des... la communauté juive la plus décimée en Europe. Il y a quelque chose quand même de ça que je trouve bouleversant aussi dans le film, qui il rend hommage à cette culture d'où il vient.
Oui, et une forme d'élégance.
Bah, le fric, il est chez Proust aussi. Quand vous lisez Proust, vous avez plein de fric. Hein. On s'en fout du fric, c'est le décor.
Mais en fait, il a raison, le film s'appelle Riche et célèbre. C'est-à-dire que c'est aussi une des ambitions de ces jeunes femmes que d'être riche et célèbre.
C'est devenu une expression de la langue américaine. D'ailleurs, ça, c'était la grande spécialité de Cukor. Hein. C'est comme le gaslighting, le gaslight. C'est devenu une expression, quoi. Rich and famous. Mais par lui. Pas par le film d'avant, par Cukor.
Et la présence, européenne aussi. J'ai noté parmi les invités à la soirée, Christopher Isherwood. C'est pas l'auteur de Adieu à Berlin ?
Si, oui, si. Voilà. Il y a aussi Ray Bradbury dans...
Ouais,
dans...
C'est étonnant. Ouais.
Il y a Vadim.
Il y a du beau monde, oui, dans les figurations. Voilà.
Ouais.
Oui, bonsoir. Un point qui m'a beaucoup plu, et en comparaison avec celui de Vincent Sherman, c'est toutes les scènes extérieures. Ouais. La mer, les rues de New York, le Connecticut.
Oui, c'est magique, ça. Ouais.
Et j'ai trouvé que ça donnait... Enfin, j'avais vu le film de Sherman, donc on reconnaît assez vite la trame, mais ça donne un sens très différent, je trouve, et un souffle vraiment très très différent au film.
Ça fait, pour le coup, pour reprendre ce que tu disais, le terme très beau que tu as employé à propos du 35, quand tu disais le 35, ça vibre, hein, effectivement, à la différence du numérique. C'est un film vraiment vibrant à tous les sens du terme. Je pense vraiment que le sujet de ce film, c'est le désir. Vraiment le désir de vie, de créer. Et je pense que ces scènes, en même temps, d'extérieur, alors qui sont magiques, hein, particulièrement le Malibu, enfin, moi, ça me fait rêver à chaque fois qu'on voit la mer dans les films, la Californie dans les films américains, mais ça permet aussi de scander le temps, parce qu'il y a ce moment qui me fait penser d'ailleurs à un moment dans Télé Sympathie de Minelli, pour le décor, mais aussi pour toute la durée, le pique-nique sur la plage. Ce moment-là où il s'échappe de la fête, par exemple, par la magie du décor et de cette promenade, on a l'impression qu'ils ont parcouru 10 ans presque. C'est des moments vraiment, pareil, la neige, ils scandent les saisons. C'est fait avec une très grande subtilité quand même, comme dans c'est très élégiaque, en fait, hein. Le moulin sous la neige, l'automne, le printemps, enfin, elle, en plus, il y a Central Park à chaque fois qui revient à plusieurs saisons différentes, la Californie, évidemment. Et ça donne cette épaisseur de temps proustienne, pour le coup, hein. Pour ça, je disais, c'est comme si c'était une condensation de la recherche. Et je pense que ça joue un rôle très important, en fait, dans le film. Parce que c'est de ça que les êtres humains sont faits, en fait. Le premier film, c'était un film en chambre, très artificiel, où, en gros, deux nanas se hurlaient dessus. Une nana, une mégère hurlait sur sa copine, donc on ne prenait pas trop.
Cela dit, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine pour l'interprétation de Bette Davis.
Bien sûr. Alors, on se demande un peu pourquoi.
Je la trouve remarquable dans le film.
Elle est, de toute façon, Bette Davis, elle est toujours remarquable.
C'est vrai aussi.
C'est une plus grande actrice américaine. Mais là, c'est vraiment vrai autre chose. C'est vraiment tout ce dont l'existence humaine est faite, quoi. C'est un film avec un sentiment de l'existence et un désir pour l'existence fait par ce vieil homme qui va mourir. Il n'y a aucune amertume, il y a aucun. C'est extraordinaire de faire un film aussi vibrant à deux ans de la mort.
Tu disais que tu l'avais vu dans une programmation sur les films testamentaires.
Voilà, oui.
Et c'est vrai que, alors peut-être que Cukor n'avait pas du tout l'intention que ce soit un film testamentaire, lui, il voulait faire un autre film, même s'il avait 82 ans, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a l'habitude de considérer comme un film testamentaire. Généralement, un film testamentaire est un peu mélancolique, distant. Une sorte de méditation.
Un grand message.
Voilà, ou une sorte de méditation philosophique sur le monde. Là, Cukor, il fait du Cukor. Et alors, il le fait remarquablement bien. Mais il n'y a pas du tout. C'est un film testamentaire, par accident ou par âge, mais pas comme un manifeste. Ce n'est pas du tout un manifeste testamentaire.
Comme un autoportrait.
Mais c'est
très explicite.
Une sorte de récapitulation. Mais il en aurait bien sans doute tourné une autre de récapitulation après celle-là.
Oui, vous avez tellement bien parlé du film que je n'ai plus tellement de questions à vous poser sur lui-même. En revanche, je me souviens parfaitement d'une polémique qui avait été lancée après la sortie du film et déclenchée par Jacqueline Bisset elle-même, qui disait avoir fait beaucoup plus que de la coproduction. Elle disait en fait avoir quasiment réalisé le film.
Non mais...
Et elle mettait même en cause la capacité de Cukor à tourner, etc. Et c'est en totale contradiction avec ce que vous avez dit.
Non, mais ils se sont un peu écharpés, ou en tout cas, il y a eu quelques anicroches par interview interposées, et ça mettait Cukor en fureur, parce que Cukor, qui avait un humour dévastateur, pouvait être aussi très, cru. Et presque parfois brutal dans ses expressions. Je pense que c'était pas du tout un gentil, hein. Je pense qu'il avait la dent dure. Et en fait, il y avait une petite querelle parce qu'en fait, c'est visiblement, pour ce que j'en sais, Jacqueline Bisset, qui par son agent a eu la possibilité de lire le scénario, et c'est elle qui a amené ce film à la MGM. Alors après, elle est entrée en participation, ce qui la rendait un peu coproductrice du film. Enfin, avec les MGM qui produit, je pense que c'est plutôt le studio qui a soutenu le film. C'est vrai, ce que je disais, que Cukor est arrivé très tard sur le projet, mais il a 50 films derrière lui. On le voit, c'est un film mis en scène par Cukor. Il y a tout ce que vous doutez là-dessus.
En revanche, je pense que le fait, sans doute, il y a un phénomène presque un peu de hantise. C'est-à-dire le fait qu'il se projette tellement, alors à travers ces deux femmes, de toute façon, il faut au moins deux femmes pour faire Georges Cukor, je pense, pour ne pas dire beaucoup plus probablement, mais c'est Jacqueline Bisset, clairement, le personnage qui est très explicitement. Donc peut-être qu'il y a eu un phénomène, du coup, qu'à force de se projeter en elle, ça arrive tout le temps hein, dans les films, que quand un acteur ou une actrice est investi, même pas explicitement, par le metteur en scène, que ça produise des trucs, ça tourne mal en général. Donc il y a eu sans doute un phénomène comme ça de transfert, parce qu'il y a vraiment un transfert dans le film qui est assez explicite. Oui, il était méchant. J'ai mis des années à lui pardonner les concours de fausse Marilyn. Mais maintenant, je lui pardonne. Vraiment, je l'aime de tout mon cœur. Ouais, c'était vraiment méchant quand même. Il faisait avec... Les dimanches, il avait une grande villa à Beverly Hills, avec sa piscine, machin, enfin, normal. Et donc, il y avait plein de jeunes mecs qui venaient, qui étaient là. Je sais pas si certains devaient être... Je sais rien, des mecs qui venaient pour des aspirants acteurs ou quoi. Et il organisait des défilés de fausses Marilyn avec... Et donc les mecs mettaient des... Enfin, ils s'habillaient en Marilyn, quoi. Et je trouvais ça méchant pour Marilyn pendant longtemps. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais pardonner parce que je pardonne tout, je crois, à Georges Cukor. Mais il avait compris que Marilyn, c'est une fausse Marilyn, que c'est Marilyn, c'est Kemp. Alors, Pauline Kael serait pas contente que je dise ça, mais fuck Pauline Kael. Et Marilyn, évidemment, elle était déjà... Enfin, c'est aussi pour ça qu'elle est morte, Marilyn. Elle était dépassée par cette propre créature que le système, pas seulement des studios, mais le système capitaliste, et pas seulement d'ailleurs, avait créé, qui clairement allait au-delà d'elle. Donc il y a un truc en même temps très fort dans le fait de multiplier
il a quand même,
les Marilyn.
Mais c'est un peu méchant. Tu rappelais Something Gots to Give, mais il a tourné un film terminé entier avec Marilyn, qui est le milliardaire.
Let's Make Love, voilà. Où elle est. Film. Yves Montand, qui était vraiment un des plus mauvais acteurs de la planète, je pense, vraiment une catastrophe, qui avait le culot de prendre Marilyn de haut, enfin, c'est vraiment grotesque. Donc, en dépit de la prestation catastrophique de Montand, mais qui en même temps est intégrée au film, je trouve que c'est un des plus beaux rôles de Marilyn. Le film est très très beau, hein. Il est injustement décrié. C'est un film assez extraordinaire.
Autre remarque, question, ou est-ce que vous voulez en rester là pour l'instant ? Merci Hélène, merci beaucoup. Merci Hélène.
C'était les podcasts de la Cinémathèque française.